de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravie de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie espère achever bientôt la révision de l'accord IGPA ». L'Indonésie dirigera la discussion sur les droits de l'homme lors de la 37e réunion de la ICHR. Le président Joko Widodo encourage le renforcement du partenariat forestier entre l'Indonésie et le Brésil. Le président dit que la terre a besoin d'actions réelles, pas seulement de rhétorique. Et l'Organisation Nations Unies des Bourses, 22 millions de dollars américains pour aider les réfugiés du conflit soudanais. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère de coordination des affaires économiques, espère un règlement immédiat, un processus de révision de l'accord de partenariat économique indonésien-japonais, ou IJEPA, avec le Japon, y compris la réalisation de l'engagement du Japon sur la question de la transition énergétique telle que proclamée dans l'Asia Zero Emission Community, ou ASEC, annoncée lors du sommet du G20 à Bali en novembre 2022. Cité d'Antara, dans le communiqué officiel du ministère de coordination des affaires économiques samedi, a déclaré que le président indonésien Joko Widodo, lors d'une réunion bilatérale avec le premier ministre japonais Fumio Kishida, avait proposé un certain nombre de points, tels que l'élimination des droits de douane sur les produits de thon en conserve, l'élargissement du champ de travail des travailleurs migrants indonésiens au secteur du tourisme et de l'industrie, ainsi que la mise en œuvre du renforcement des capacités. L'Indonésie présidera la 37e réunion de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN, ou abrégée en AICHR, qui aura lieu du 22 au 26 mai 2023 à Bali. Au cours de la réunion, l'Indonésie mènera des discussions sur le renforcement du rôle de la AICHR dans la promotion et la protection des droits de l'homme par l'initiative d'institutionnalisation dialogue de l'ASEAN sur les droits de l'homme lors de la réunion. Le président et représentant de l'Indonésie pour l'AICHR, Yuyun Wahyuningrum, dans une déclaration écrite samedi, a déclaré que la série de dialogues sur les droits de l'homme était la preuve que les pays membres de l'ASEAN sont suffisamment sûrs pour concrétiser les engagements en matière de droits de l'homme dans la région. Il a également souligné le rôle important des défenseurs des droits de l'homme et des universitaires dans la promotion des droits de l'homme au sein de l'ASEAN. Le président indonésien Joko Widodo a encouragé le renforcement des partenariats au secteur forestier entre l'Indonésie et le Brésil lors d'une réunion bilatérale avec le président Luiz Inácio Lula da Silva samedi en marge du sommet du G7 à Hiroshima, Japon. Dans un communiqué reçu à Jakarta, les questions forestières sont le sujet principal des deux dirigeants, considérant que l'Indonésie et le Brésil sont deux des pays ayant la plus grande superficie forestière tropicale au monde. En outre, les deux hommes ont également discuté de la coopération dans la gestion du changement climatique et ont convenu d'accroître la coopération dans le développement de l'élevage et de l'approvisionnement en viande pour l'Indonésie. À cette occasion, le président Lula a également indirectement invité le président Joko Widodo à effectuer une visite d'État au Brésil. Le président Joko Widodo a souligné que la Terre a besoin d'une action réelle et pas seulement de la rhétorique pour faire face à la menace du changement climatique. Par conséquent, le président encourage tous les pays à contribuer en fonction de leurs capacités respectives. Dans son discours lors de la session de travail des partenariats du G7 sur les questions climatiques, énergétiques et environnementales à Hiroshima, Japon, samedi, le président a souligné que le soutien au financement climatique des pays en développement doit être constructif et loin des politiques discriminatoires au nom de l'environnement. Selon lui, le financement des aides sous forme de dettes ne sera qu'un fardeau. En outre, le président encourage également tous les pays à multiplier les actions concrètes contre la menace du changement climatique. L'Organisation des Nations Unies a donné 22 millions de dollars américains de fonds pour aider les personnes fuyant le conflit au Soudan, aux quatre pays voisins. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, ou abrégé en OCHA, vendredi, a déclaré que le sous-secrétaire général des Nations Unies, Martin Griffiths, en tant que coordinateur pour la fourniture de l'assistance, a autorisé les fonds pour aider environ 250 000 personnes qui étaient signalées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés comme ayant fui à la République centrafricaine, le Tchad, l'Égypte et le Soudan du Sud. OCHA a déclaré que les régions de violence dans l'état du Darfour occidental, Soudan, avaient incité environ 30 000 personnes à fuir au Tchad la semaine dernière. Les agences humanitaires ont également travaillé avec le gouvernement pour intensifier la réponse. Pendant ce temps, l'Organisation internationale pour les migrations a déclaré que le conflit avait provoqué la fuite de plus de 843 000 personnes sur le territoire du Soudan. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Oh,
Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « L'Indonésie fait campagne pour le candidat au Conseil exécutif de l'UNESCO ». Le ministre de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, Nadiem Makarim, a parlé devant des hôtes responsables et ambassadeurs des pays membres de l'UNESCO mercredi le 17 mai. À cette occasion, Nadiem a milité pour la candidature de l'Indonésie en tant que membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour la période de 2023 à 2027. Selon lui, cette candidature est une étape importante dans le parcours de l'Indonésie en tant que pays ou bien en tant que membre de la communauté internationale. Nadiem a déclaré que 5 ans après l'indépendance, l'Indonésie était officiellement devenue membre de l'UNESCO. Depuis lors, selon lui, l'Indonésie s'est toujours engagée à renforcer le principe d'unité à travers les organisations mondiales avec l'aspiration à maintenir la paix et la stabilité mondiale. Nadiem a expliqué que l'un des efforts déployés par le gouvernement indonésien pour renforcer le principe d'unité a été réalisé à travers le programme du ministère, à savoir les programmes Merdeka Belajar et Merdeka Budaya, ou en français, Liberté d'apprentissage et Liberté de culture. Il a expliqué que 24 épisodes de Merdeka Belajar dan Merdeka Budaya sont devenus des politiques nationales stratégiques et étaient conformes aux objectifs mondiaux pour atteindre les objectifs de développement durable. Pour cela, selon lui, l'Indonésie s'est engagée à renforcer son implication avec l'UNESCO en donnant la priorité à la coopération internationale dans le secteur de l'éducation, de la culture et des sciences. L'Indonésie est devenue membre de l'UNESCO depuis le 27 mai 1950 avec 8 fois de membres du Conseil exécutif. L'Indonésie a siégé pour la dernière fois en tant que membre du Conseil exécutif de l'UNESCO de 2017 à 2021.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et ses enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 21 mai. On commence par le 21 mai 1904, la FIFA a été fondée. La Fédération internationale de football, ou abrégée en FIFA, est l'instance dirigeante internationale du football. La FIFA, le 21 mai 1904, a été fondée pour assurer l'unité entre les associations nationales de football. Par cette association nationale, ils sont la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Suisse. L'objectif initial de la création de la FIFA était de promouvoir le football associatif, de favoriser des relations amicales entre les associations nationales, les confédérations, les officiels et les joueurs. La naissance de la FIFA est le résultat d'un nombre croissant de matchs internationaux peu après le début du XXe siècle. Les dirigeants de football en Europe ont estimé que la compétition en expansion avait besoin d'un organe directeur. Et sous la direction de Robert Guérin, un journaliste français, les 7 membres fondateurs se sont réunis à Paris pour façonner l'avenir du sport. Guérin, le premier président de la FIFA, a dirigé l'organisation de 1904 à 1906. 7 autres personnes ont également été présidents de la FIFA, dont Jules Rimet pendant 33 ans, de 1921 à 1954. Le 21 mai 1988, le président Suharto a démissionné de son poste. Le président Suharto, au pouvoir depuis 32 ans, a finalement déclaré sa démission du poste de président de la République d'Indonésie le 21 mai 1998. Il a remis ses pouvoirs au vice-président Vijay Habibie. C'était le résultat des diverses émeutes qui se sont produites en Indonésie qui voulaient que Suharto démissionne de son poste. La crise multidimensionnelle de 1997 à 1998 est devenue la principale raison de l'apparition de diverses émeutes dans diverses régions d'Indonésie. Après l'investiture du président Suharto et du vice-président Vijay Habibie en mars, l'action de masse s'est étendue et a atteint son apogée le 12 mai 1998 lorsque 4 étudiants de l'université de Trisakti ont été abattus. Cet incident a déclenché des manifestations de masse à grande échelle menées par des étudiants. Puis, le 18 mai 1998, des étudiants ont réussi à occuper le bâtiment du MPR-DPR et ont exhorté le président du MPR-DPR, Harmoko, à exiger que le président Suharto démissionne de son poste. La suite, le 21 mai 2012, l'attentat à la bombe de Sanaa. L'attentat à la bombe de 2012 à Sanaa était un attentat suicide le 21 mai 2012 contre des soldats qui s'entraînaient pour le défilé militaire annuel le jour de l'unité à Sanaa au Yémen. Cette cérémonie a lieu chaque année le 22 mai depuis 1990 pour marquer l'unification du Yémen du Nord et du Yémen du Sud en tant que République du Yémen. Avec plus de 120 personnes tuées, l'attaque a été la plus meurtrière de l'histoire du Yémen. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Tutur kata
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « L'Indonésie accueillera les championnats du monde d'haltérophilie ». Le développement de l'haltérophilie en Indonésie se développe rapidement au niveau junior et senior. Gagner des médailles d'or à plusieurs championnats du monde d'haltérophilie et aux événements sportifs internationaux régionaux permettant la présence d'haltérophilie indonésien de recevoir une attention particulière. En lien avec ce bon développement, l'Indonésie prévoit de postuler pour accueillir les championnats du monde d'haltérophilie. Le désir de l'Indonésie d'accueillir les championnats du monde d'haltérophilie 2023 se termine en douceur à la suite d'une rencontre entre le président général du Comité olympique indonésien, UCNO Raja Sabta Oktohari, et le président de la Fédération internationale d'haltérophilie, Mohamed Jalut, dans le SEA Games 32 2023 à Cambodge. En marge de SEA Games, Raja Sabta Oktohari et Jalut ont parlé d'haltérophilie indonésienne après avoir tous deux été témoins de l'action de Rahmat Erwin Abdullah qui a remporté une médaille d'or dans la catégorie de 81 kg au complexe national du stade olympique Phnom Penh lundi. À cette occasion, Raja Sabta Oktohari a transmis le désir de l'Indonésie de devenir l'hôte des championnats du monde d'haltérophilie. Après la réunion, Mohamed Jalut a déclaré que l'Indonésie dans le sport d'haltérophilie est un pays fort. La Fédération internationale d'haltérophilie apprécie vraiment le désir de l'Indonésie d'accueillir les championnats du monde. En dehors de cela, l'Indonésie a toujours été exempte de dopage en haltérophilie et dans d'autres sports. L'Indonésie a également obtenu de bons résultats pour ses haltérophiles. Pour cette raison, il est prêt à donner les championnats du monde de la Fédération internationale d'haltérophilie en Indonésie. Selon Radio Okto, la déclaration du président de la Fédération mondiale d'haltérophilie, le Comité national olympique indonésien a immédiatement informé le conseil d'administration de l'Association indonésienne d'haltérophilie PABSI afin que la confiance de la Fédération internationale d'haltérophilie puisse être effectuée correctement. C'est tout mon Indonésie.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, la cascade de Lawangkori, qui se trouve au sous-district de Windusari, au village de Windusari, est une zone touristique relativement nouvelle à Magelang.
Cette cascade d'une hauteur d'environ 25 mètres offre une belle vue sur une cascade au milieu d'une forêt de bambou. Il n'est pas trop difficile d'atteindre cette zone de cascade car cela ne prend qu'environ 25 minutes depuis le centre-ville de Magla. La cascade de Lavankori est située sur les pentes du mont Sumbing. L'air y est donc très frais. De plus, cette cascade se trouve au milieu d'une forêt de bambou. Le bruissement des feuilles de bambou ajoute à la belle atmosphère autour de la cascade. Le voyage vers cette zone est très agréable car les visiteurs traverseront de belles zones rurales avec beaucoup d'arbres. De plus, avant d'atteindre la cascade, les visiteurs traverseront également une falaise rocheuse qui est une forme unique. Basée sur sa forme et sa texture, cette falaise rocheuse est très ancienne. La forme est unique, semblable aux blocs de pierre qui se confondent avec la falaise rocheuse au-dessus. Certains ont même la forme de poutre suspendue car il n'y a pas de support pour les rochers. Uniquement, même s'il n'est pas soutenu, ces rochers suspendus ne s'effondrent pas et ne tombent pas. Chers auditeurs, apprécier le tourisme naturel qui est encore caché est certainement différent de celui qui a été beaucoup exposé. De même, avec la cascade Lavankori à Magelang, qui ne dispose pas encore d'installations adéquates. Alors, il est conseillé aux visiteurs d'apporter leur propre fourniture lorsqu'ils viennent dans ce lieu touristique. Si vous avez peur de vous perdre, il est préférable d'inviter un guide touristique ou des résidents locaux comme guide à la cascade de Lavankori.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur dont le titre est « L'Indonésie se classe au 6e rang mondial des start-up ». L'Indonésie a réussi à s'enregistrer comme l'un des pays avec le plus grand nombre de start-up au monde. Basé sur les données publiées par Startup Bling Global Rankings, l'Indonésie est actuellement classée 6e avec 2942 start-up enregistrées. Plusieurs start-up indonésiennes qui sont devenues mondiales incluent Gojek, Bukalapak, Tokopedia et Traveloka. Leur succès a non seulement eu un impact positif sur le développement de l'industrie technologique en Indonésie, mais a également contribué à l'économie du pays. Basé sur les données du Startup Ranking et de dataindonesia.id, samedi, le nombre de startups dans le monde était de 144 688 au 10 mai 2023. Parmi celles-ci, 67 554 startups se trouvent aux États-Unis. Vient ensuite l'Inde qui compte 17 209 startups, puis l'Angleterre et le Canada avec le nombre de startups respectivement 7 046 entreprises et 3 902 entreprises. En total, de 2 902 startups sont en Australie. L'Indonésie se classe 6e avec un total de 2 492 startups. L'Indonésie est également l'un des pays d'Asie du Sud-Est qui a le plus grand potentiel de marché numérique. Ces dernières années, le nombre d'internautes en Indonésie a considérablement augmenté. Parallèlement à cela, il existe une grande opportunité pour les startups de tirer parti de ce potentiel de marché croissant. Basé sur l'énorme potentiel de l'économie numérique en Indonésie et de bons fondamentaux, le gouvernement est optimiste que la croissance économique de l'Indonésie en 2023 pourra atteindre 5,3%. Voilà l'Indonésie en couleur.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini.
sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu. Ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the
world. Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une chanson d'Andy Rianto et Afghan. Le 17 mai 2023 hier, Afghan a réédité une chanson à succès en 2002 intitulée « Mengertilah Kasih » par Andy Rianto et Indra Safera. Auparavant, la chanson créée par Andy Rianto et Andy Safera était interprétée par la célèbre diva Ruth Sahanaya. La sortie de cette chanson fait partie du projet d'Andy Rianto qui réarrange actuellement ses œuvres en impliquant des jeunes chanteurs indonésiens où il a déjà collaboré avec Raisa, Lyodra et Keisha Lefronka. En termes d'arrangement musical, la nouvelle version de Mengertilah Kasih est très différente. La version précédente, chantée par Ruth Sahanaya, n'utilisait qu'un seul clavier, tandis que la nouvelle version, chantée par Afghan, présente un orchestre composé de 65 musiciens de Budapest. Bon, chers auditeurs, voici Andy Rianto et Afghan, intitulé Mengertilah Kasih, ou en français, Essaye de comprendre chérie. Bonne écoute!
Kembali
Voice of Indonesia. Indonesia.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengarungi angin bersandar, menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.